Les leçons de l'histoire, cela ne saurait être autre chose que la conscience aussi exacte qu'il est possible de ce qui s'est passé durant le passé.
Cette semaine, une galerie d'historiens. Quatrième portrait, François Furet et la Révolution française.
La Révolution est notre mère parce que vous vous placez en 1782 ou 84, vous ne voyez pas dans les textes du temps le vocabulaire que vous et moi nous parlons. Vous vous placez en juin 89 ou en juillet 89, vous regardez les débats de l'Assemblée constituante, ils parlent notre langage. C'est ça que je veux dire. Je veux dire qu'il y a quelque chose d'étonnant dans cet événement historique, c'est que, en quelques mois, la démocratie moderne naît.
La révolution, disait Furet, c'est une victoire de la volonté et la défaite des illusions. Ceux qui croyaient qu'elle pourrait rimer avec modération ont vite déchanté. Quant à la démocratie qui, à travers mille drames et difficultés, finira par en naître, elle est condamnée à décevoir tant est grand l'écart entre les promesses qu'elle fait et les accomplissements qu'elle n'offre pas. Furet imaginait de prolonger son histoire mélancolique de la révolution par un Napoléon au moment de sa mort. La mort qu'il a fauchée prématurément en 1997. Il venait d'être élu à l'Académie française. Il n'aura pas eu le temps d'y être reçu. Il laisse de la période mieux qu'une histoire sociale. Il ne voulait pas seulement décrire des forces anonymes qui n'auraient pas su ce qu'elles faisaient. Mieux qu'une histoire des idées. Cela aurait été trop abstrait, pas assez incarné. Il s'est voulu historien conceptuel. Une fois posés les faits, il élabore des hypothèses d'interprétation presque... un philosophe, en somme. Et comme les écrivains du 18e et du 19e, qu'il fréquentait intimement, souvent avec tendresse, il a été aussi un styliste éclatant. Le grand sujet de la Révolution vaut un grand récit, avec des phrases qui claquent sans un mot de trop.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Donc je m'arrête et je dis bonjour à Christophe Prochasson. Bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Christophe Prochasson qui publie chez Stock une biographie de François Furet. François Furet a pris sa retraite en 95. Il est mort en 97. Il venait d'être élu à l'Académie française. Il n'a pas eu le temps d'y siéger. Vous n'avez jamais cherché, vous qui étiez un jeune historien, son voisin physiquement, à le rencontrer?
Mais écoutez, nous nous sommes croisés en effet à l'école des hautes études en sciences sociales, où j'avais moi-même été élu quelques années avant.
Avec son aide?
Non, sans son aide. C'est un point qui mérite d'être souligné, vous avez raison. Je crois que François Furet avait assez peu d'estime pour ma personne et pour le projet d'historien que je présentais devant le HESS. Moi-même, je dois dire d'ailleurs, je n'avais à son égard qu'une estime, disons, tempérée par un certain nombre de préjugés que la gauche dans laquelle je m'inscrivais, dans laquelle je m'inscris toujours, avait à son endroit.
Ce qui est gênant avec moi, disait-il, c'est qu'on croit que je suis passé à droite, mais non, je suis toujours à gauche. Puis, il regardait de haut certaines personnes, parfois, donc il traitait, comment dites-vous, de connards.
Oui, alors ça, c'est un aveu qu'il a fait lui-même à Bernard Pivot. Il y avait beaucoup de connards pour François Furet, et permettez-moi d'avoir la présomption d'avoir longtemps fait partie de ces connards.
Alors, il peut vous remercier d'avoir fait une biographie très discrète sur les événements de sa vie, une biographie intellectuelle, on ne va pas remuer le misérable petit tas de secrets constitue d'habitude une biographie ici.
Non, je crois que l'intérêt de François Furet, c'est qu'il soit à la tête d'une œuvre. Et il n'y a pas tant d'historiens qui soient à la tête d'une œuvre. Vous savez, il donnait cette définition que je trouve excellente d'une œuvre. Une œuvre, disait-il, c'est-à-dire une question bien posée. Et la question bien posée, qu'il n'a cessé de poser, de reposer de façon presque itérative, c'est la question de la démocratie, de la révolution.
Alors, une vie réussie n'est jamais fondée sur le hasard. Cependant, il y a une erreur qu'il est obligé de confesser. Enfin, il n'aimait pas le vocabulaire de la pratique religieuse. Il fait quand même des aveux, lui, qui est si pudique, il dit « j'ai été
un communiste ».
Communiste.
Eh oui, eh oui. Et c'est pas d'ailleurs un moment de sa vie duquel il a été très fier. Il en a eu, je crois, un remords insistant. Et je pense que ce passé communiste lui a pesé, notamment au regard des peuples qui avaient vécu sous le joug du communisme. Alors il a été en effet communiste au plus mauvais moment, dit-il, c'est-à-dire en adhérant en 1949, et puis en quittant le communisme à la fin des années 50, selon une chronologie un peu contrastée. Il faut bien dire aussi qu'il a été un communiste, comme il le disait lui-même, alité, car tuberculeux, puisqu'il a été atteint de la tuberculose à partir de 1950, c'est-à-dire au moment même où il devenait communiste, et qu'en revanche, il a donc, comme il le disait, ce communisme d'alité lui a permis de se doter d'une culture marxiste très consistante. Il a lu beaucoup, beaucoup de choses, mais peu écrit. Et d'ailleurs, il s'est lui-même souvent beaucoup loué d'avoir si peu écrit, dans une période où certains témoignages disent qu'il était un communiste, disons, de belle trempe, est tout à fait stalinien.
Vous voyez, ça a des avantages de ne pas être comme vous, un précoce, Christophe Prochasson. Le rideau tombe pour lui sur l'illusion communiste, ainsi qu'il dira plus tard, c'est une expression qu'il utilisera pour un de ses grands livres, avec l'occupation de Budapest par les chars soviétiques en 1956, à moins que ce soit avant, à moins que ce soit après.
Derrière l'hôtel Duna, entre l'hôtel Duna et le Danube, voici les chars russes qui passent.
Mitrailleuse, vous entendez les balles qui claquent contre le mur.
Les Russes à la maison, les Russes à la maison, les Russes à la maison.
Ils sont ici une trentaine. Parmi eux se trouve une jeune fille de 17 ans. Certains sont en uniforme, mais ils ont ôté les étoiles rouges qui ornaient leur képi. Tous portent un brassard tricolore, rouge, blanc, vert.
Enfin, ceux qui étaient dans la même section que Furet, ou plutôt dans le même cercle d'amis et qui retournent leurs étoiles, c'était pas des connards. Hein.
Non, pas du tout. Ce sont des intellectuels de premier ordre et de grands historiens. Vous y comptez Mona Ozouf, Jacques Ozouf. Vous y comptez aussi des gens comme Emmanuel Leroy Ladurie, comme Maurice Agulon. Bref, je dirais le Gotha de l'historiographie française de l'époque. Et là, si nous, des amitiés, des amours aussi, parfois, et puis aussi se répandent des conversations. C'est un lieu de formation intellectuelle, d'échange intellectuel formidable, et je crois que c'est ainsi aussi que l'on peut comprendre, d'une certaine façon, la durée d'un engagement qui n'a rien à voir avec un engagement militant tel qu'on peut se le représenter de façon plus traditionnelle. Il s'agit vraiment d'un communisme d'intellectuels et d'historiens.
Et ces intellectuels, vous les décrivez, transplantés leur énergie dans leur domaine de recherche avec beaucoup de talent. Alors venons-en à celui qui va occuper François Furet. Il avait déjà fait son diplôme, on dirait maîtrise aujourd'hui, quand il était étudiant sur la Révolution. Il co-signe un livre avec Denis Richet en 65-66 et puis bientôt ce sera Penser la Révolution française en 1978. Avec toujours cette idée, il y a 10 ans torrentielle, mais il faut voir en amont.
Oui, il faut voir en amont d'abord une société qui est déjà prête d'une certaine façon à accueillir la révolution, c'est-à-dire à un moment où la domestication de la noblesse a déjà mis en quelque sorte le germe de l'égalité dans la société française. Et François Furet a été d'abord un historien des sociétés du 18e siècle, hein, notamment il est l'auteur avec Adeline Domard d'un grand livre sur Paris au 18e siècle, et il est très sensible à cela. Il vient de cette histoire sociale, hein, il faut y penser. Et puis en termes d'idées, ça c'est presque plus connu, le 18e siècle, c'est le siècle des Lumières, c'est le siècle où surgit tout un ensemble d'idées,
oui,
qui vont habiter la Révolution française.
L'inévitable, en général, ne se produit pas. La société d'ancien régime était pourtant vermoulue. Il faut l'autonomie du politique, la volonté des hommes.
Il faut tisonner, et ça, c'est la grande idée de François Furet, c'est que par rapport à, disons, l'interprétation traditionnelle, qu'il a pu d'ailleurs lui-même donner à un moment, la Révolution française, c'est d'abord un événement politique. Un événement politique, c'est-à-dire avec sa part, pour prendre un mot qu'il affectionnait particulièrement, d'énigme, de mystère. C'est-à-dire qu'en effet, tout était possible, mais tout pouvait ne pas avoir lieu. Hein. C'est comme lorsque de l'eau bout, pourquoi la bulle surgit-elle à cet endroit et pas à celui-ci ? Et c'est comme cela, au fond, que François Furet s'est distingué dans le champ des études de révolutionnaire. C'est en insistant sur le caractère politique, encore une fois, je le répète, et inattendu de l'événement.
Alors, il y a l'amont, il y a l'ailleurs. On parlait de grande révolution déjà oui. chez ses prédécesseurs, faisant la comparaison avec l'anglaise, avec l'américaine.
Voilà. Alors justement, il n'a eu de cesse de réfléchir en comparaison avec ces deux expériences historiques, parce qu'elles sont d'une certaine façon presque le contraire de la Révolution française. La Révolution française, note-t-il, c'est une révolution qui ouvre un nouveau temps, qui efface le passé, qui efface l'histoire, au point, comme vous le savez, que la Révolution française inaugure un nouveau calendrier. La Révolution anglaise et même la révolution américaine sont des révolutions qui veulent retourner à un passé, à un âge d'or, qui a été perdu de vue, qui veulent donc restituer le passé. Alors que la révolution française est tout entière tournée vers l'avenir. C'est la grande différence et c'est un point sur lequel il n'a cessé d'insister.
Ce sera un grand visiteur, un grand journaliste de l'Amérique, grand lecteur de l'historiographie américaine. Et puis l'ampleur du cycle révolutionnaire, c'est aussi l'aval. On n'insistera jamais assez sur la qualité des historiens de la révolution du 19e siècle. C'est pas un inconvénient d'avoir été proche de l'événement. Alors, on va retrouver plus d'une fois Jean-Luc Mélenchon, si vous le permettez.
Ah, mais
dans
je vous permets.
Cette émission, c'est quand même un des rares hommes politiques qui a une vraie culture historique aujourd'hui, au micro d'Emmanuel Laurentin en 2012.
Le moment, la rencontre émotive fantastique qui change la vie, c'est un échange de livres avec une jeune fille pour laquelle j'avais beaucoup d'affection, je devais avoir 13 ou 14 ans, et je lui ai offert un livre de poèmes. Et elle, pour me faire plaisir, peut-être en raison du caractère un peu tourmenté que je devais avoir dans cette adolescence, m'a offert en échange une histoire de la Révolution française, écrite par Thiers, le Versaillais, mais à l'époque j'ignorais ce qu'était un Versaillais. Et cette histoire, avec de très belles gravures, m'a absolument transporté, parce que c'était les enfants du peuple, le peuple lui-même qui devenait les acteurs de l'histoire. En général, dans ce type d'histoire, vous savez, on met beaucoup en avant les militaires. Hein, Hoche, Bonaparte, Marceau, évidemment, les figures de Robespierre. Et alors, je me suis tellement pris d'affection pour cette scène, ces moments, cette histoire de la Révolution, qu'en réalité, elle m'a habité toute ma vie. Mmh. J'ai lu naturellement toutes les histoires de la Révolution qui me tombaient sous les mains, oui, Michelet évidemment, celle aussi de Louis Blanc, celle de Jean Jaurès, qui est une histoire socialiste de la Révolution française, et évidemment, c'est celle de Michelet, qui est un peu comme une Marseillaise de Gounod.
Furet tenait en piètre estime l'histoire de Thiers, et de Michelet disait, c'est bien, mais c'est quand même un artiste en émotion.
Oui, d'ailleurs, en entendant Mélenchon, on a l'impression qu'au fond, Furet et Mélenchon sont assez proches l'un de l'autre, parce que Furet, excusez-moi, du coup je les mélange, voyez-vous, François Furet a passé sa vie en compagnie de Chateaubriand, de Guizot, et aussi d'un autre qu'il faut absolument citer, même s'il n'est réduit à l'état d'une station de métro et d'un boulevard, Edgar Quinet. Et j'ajoute aussi, bizarrement, Jaurès, dont il a été un grand admirateur. Alors que Jaurès était plutôt un historien, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, socialiste de la Révolution française, c'est-à-dire qui accrochait en quelque sorte son œuvre d'historien à son engagement politique, mais pour lequel François Furet a toujours éprouvé une grande admiration, notamment dans la quête documentaire dont a fait preuve Jean Jaurès à la fin du XIXe siècle.
Je ne vois pas Mélenchon...
Les confondait aussi.
Dire que Tocqueville est une de ses lecture favorite.
Non, il ne le dit pas, en effet, parce que Tocqueville a été tout à fait diabolisé, alors que chez les historiens communistes, y compris chez Albert Soboul en particulier, Tocqueville est un historien tout à fait estimable. Et il est vrai que s'il y en a un qu'il faut dégager, que je n'ai d'ailleurs pas cité, vous avez raison de me le rappeler, c'est bien Tocqueville pour Furet. Au fond, d'une certaine façon, on pourrait utiliser cette formule un peu rapide, qu'il y a chez Furet comme quelque chose qui pourrait être un Tocqueville du XXe siècle.
Alors, première leçon, l'ampleur de la Révolution, un de ses livres, 88, La Révolution française de Turgot à Jules Ferry. On l'entend encore.
La Révolution, quel est son projet principal ? Fonder la société sur la raison. Rejeter l'ancien régime comme corrompu, gothique, irrationnel, fonder une nouvelle cité, une nouvelle société sur la raison qui est chargée de réconcilier les hommes. C'est ça l'ambition immense de la Révolution et sa grandeur. L'expérience révolutionnaire, c'est absolutiser le politique, c'est chercher le secret du bonheur humain dans la transformation de la cité, dans la transformation du politique. C'est un surinvestissement politique, l'expérience révolutionnaire.
Un soir, disait Condorcet à plus d'un confrère, j'ai dans la tête un projet qui pourra vous plaire. Il nous faut, mes chers amis, établir en ce pays une ri-ri-ri, une pu-pu-pu, une ri, une pu, une république d'une forme unique. Dont on voulait de Louis porter la couronne, mais bientôt à mes avis dont on s'abandonne. Car il pense comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une ri-ri. Qu'une pu, 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 qu'une ré, qu'une pu, qu'une république bien démocratique.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Christophe Prochasson qui publie chez Stock, François Furet, Les chemins de la mélancolie, dont nous avons extrait quelques chapitres, François Furet et la Révolution française. On entendait Hélène Delaveau dans les spectacles dits de la Républicaine en 1989 ont été parfois contestés par les camelots du roi. Alors l'œuvre de Furet va être contestée à gauche, à droite, dans toutes les années qui précèdent le bicentenaire dès les années 1970. Il faut dire que dans l'université, vous citiez Soboul, le grand maître qui tenait la chaire d'histoire de la Révolution à la Sorbonne. Il passait pas pour un sans-papier, mais pour un non-spécialiste. Et pas vraiment quelqu'un qui appartenait à la tradition marxiste et communiste qui contrôlait le dispositif de l'histoire à la Sorbonne en matière de révolution.
Oui, ça, il faut le rappeler que l'historiographie de la Révolution française a longtemps été dans les mains des historiens communistes, en tout cas à partir de 1920, et notamment de Mathiez, qui a été le premier grand historien communiste de la Révolution française. Et puis, Mathiez, bien d'autres aussi, qui n'ont pas été toujours communistes encartés, mais proches, comme Georges Lefebvre, et puis Albert Soboul et après lui Michel Vauvel, tous ces gens-là avaient une interprétation commune de la Révolution française qui s'arc-boutait en effet sur une lecture, disons, d'ailleurs Furet disait, pas tellement marxiste, mais plutôt jacobine que marxiste, ou selon un qualificatif qu'il affectionnait là aussi, jacobino-marxiste.
On va prendre deux exemples. Albert Soboul, professeur à grand spectacle à la Sorbonne, avant que Furet n'impose sa magistrature jusque dans les médias, c'est lui qu'on invitait à la télévision. Souvenirs, nostalgie, les dossiers de l'écran, 1973, ils sont consacrés à la terreur, et monsieur SVP transmet les questions des téléspectateurs.
Pourquoi dans tous les films qui dépeignent la terreur voit-on ce qu'il y a de plus horrible, et pourquoi ne montre-t-on pas ce qu'il y a de positif et de nécessaire dans la Révolution? C'est une réaction d'une étudiante de Paris qui rejoint les préoccupations de la plupart de nos correspondants pour qui la terreur signifie des milliers de morts, les visages de Robespierre, de Danton, de Fouquier-Tinville.
Pour comprendre la terreur, il faut la replacer dans tout son contexte historique et il faut replacer la Révolution dans ce grand problème, à savoir le passage de l'ancienne société à la nouvelle société. Il est bien évident qu'on ne passe pas d'une société fondée sur le privilège de la naissance, à une société qui se veut égalitaire, sans que les classes sociales dépouillées de leurs privilèges fassent quelque résistance. Autrement dit, on ne peut pas comprendre la terreur si, partant justement du grand espoir de 1789, on oublie d'abord l'émigration. Pas oublier, n'est-ce pas, que les privilégiés commencent à émigrer dès après le 14 juillet. Ensuite, la contre-révolution. Et ensuite, la guerre. C'est-à-dire la guerre voulue, non seulement les Girondins, pour des raisons de politique intérieure, mais aussi la guerre voulue par le roi, par la cour, de façon à rétablir l'ancien régime, de façon à rétablir les privilèges et à revenir à l'ancienne société.
Alors François Furet va s'inscrire en faux contre les hypothèses de Soboul, quand même assez sympathique, rayonnant, Soboul avec son accent. Pour lui, la terreur, c'est pas la conséquence de circonstances extérieures.
Non, certainement pas, ni de la lutte des classes, d'ailleurs, comme le laisse entendre ici Albert Soboul. La terreur, c'est le produit d'une logique politique, en quelque sorte, qui se met en place très tôt dans la Révolution française. D'ailleurs, il faut noter que François Furet est connu pour avoir porté la théorie dite du dérapage qu'il avait mise en œuvre avec Denis Richet dans le livre de 65-66 auquel vous faisiez référence, c'est-à-dire la bonne Révolution 89 et la mauvaise 93, mais il n'a jamais assumé cette théorie du dérapage. Pour lui, il y a quelque chose, au fond, dès le départ, dans la Révolution française, qui conduit le processus révolutionnaire à la terreur et aux milliers de morts.
Révolution ne peut rimer avec modération. Alors les épigones de Soboul, les communistes orthodoxes le traitent de tous les noms de révisionnistes. Il leur dit, vous confondez dans une même perspective, révolution française et révolution russe, vous savez, le rideau du Bolchoï où il y a les dates de 89, de 71,
Maximilien
de 1917. Et 17, c'est une autre époque, c'est après la guerre de 14, c'est un autre cycle qui commence. Autre point nodal de débat, pour Furet, la révolution est terminée.
Elle est terminée de deux façons, d'une certaine façon. Elle est terminée d'une part parce que elle n'est plus un objet, selon lui, de conflit, de discorde chez les Français. Au fond, qui remet en cause le bien fondé de la Révolution française dont est née la République? Bon, donc là, il n'y a plus de discussion, selon lui. C'est la première fois qu'il dit ça. D'ailleurs, c'est en 71, hein, au moment de son grand texte, le Catéchisme révolutionnaire. Et elle est terminée aussi comme la révolution en général, si j'ose dire, comme modalité privilégiée du changement social et politique. Aujourd'hui, dit-il, la révolution est périmée et le changement social doit advenir par d'autres voies que ce modèle-là.
Comment ça, monsieur Prochasson, vos camarades du Front de Gauche doivent être choqués de vous voir consacrer un livre à François Furet, parce que le répertoire des passions révolutionnaires, il n'est pas clos. Vous permettez qu'on entende une seconde fois Jean-Luc Mélenchon.
Mon camarade Jean-Luc Mélenchon.
Je vous laisse le dire. Il évoque ici Saint-Just, envoyé comme représentant en mission pour gagner une guerre qui peut sembler perdue face à la coalition réactionnaire.
Il a eu une espèce de sentiment romanesque et héroïque de l'histoire. On envoie Saint-Just aux armées sur le front de l'Est, où il a rempli un rôle extraordinaire au moment où la patrie était en danger. Et cet homme si jeune, il doit avoir 22, 23 ans à l'époque, prend des mesures qui montrent en lui une espèce de talent extraordinaire des situations, et pour ce que je fais, ça a une grande importance. Hein. La politique, c'est un art de réalisation. Il faut bien sûr être armé théoriquement, mais il faut avoir ce sens du moment, le kairos des Grecs en quelque sorte, mais là, c'est dans l'action. Et Saint-Just arrive, et c'est extraordinaire. Les troupes sont dans des campements sordides, il y manque des chaussures. Il fait aussitôt un arrêté qui oblige les bourgeois de Strasbourg à fournir 20 000 paires de chaussures sous 48 heures. Ce qu'ils font d'ailleurs promptement, ils y avaient intérêt. Ensuite, il édicte un autre, toutes sortes de décisions de cette nature. Et enfin, il se porte sur le front à Landau. Et il a ses trois plumes bleu-blanc-rouge sur la tête. Il faut s'imaginer la cible que ça représente. Un type harnaché de cette manière-là, qu'on voit à 200 ou 300 mètres, c'est-à-dire largement à la portée d'un fusil. Et il bondit des tranchées pour faire sortir la troupe. Sous les cris Landau ou la mort, il invente les slogans politiques, bref. Ce personnage, vous voyez, j'en vibre encore, je m'y vois.
Penser la révolution, dit Furet, la revivre.
Oui, Mélenchon. Oui, c'est le discours de Jean-Luc Mélenchon est typique de la cible de François Furet, qui s'inscrivait en faux. Il dit d'ailleurs, c'est une phrase très sotte, une phrase du grand historien Hollard, « Pour comprendre la Révolution, il faut l'aimer. » Et pour François Furet, il n'y a rien de plus sot que cela, qu'il y a des tas de phénomènes historiques qu'on doit examiner et qu'on n'aime pas. Et une autre phrase qu'on a envie de rapprocher de cette citation de Jean-Luc Mélenchon, qui est due à François Furet, et qui regrettait, disait-il, que la gauche préfère célébrer son passé au lieu d'y réfléchir. Et c'est un peu ça qu'on a dans ce type de discours, mimétisme, vous avez raison, rapport, relation émotionnelle au passé et volonté, au fond, de s'inscrire dans une longue histoire héroïque qu'on veut reproduire sans cesse pour s'émanciper des différentes contraintes qui nous accablent.
On en vient à 89, la révolution est terminée puisqu'on la commémore. Je ne sache pas qu'il ait participé aux fêtes des Champs-Élysées que conclut à sa façon le président de la République. Nous sommes en juillet 1989.
Si les Français doutent parfois d'eux-mêmes, qu'ils écoutent la rumeur qui monte des quatre coins de la planète. Partout où l'on se bat pour l'indépendance nationale, pour le droit d'un peuple à disposer de lui-même, pour l'avènement des pays pauvres au partage des richesses, pour la liberté de penser, pour l'égalité des droits, c'est le message de la Révolution française qu'on entend. Et cela nous ramène à Pékin, place Tiananmen. Et ce jeune homme, seul, debout devant les chars, avez-vous entendu ce que criait la foule ? Nous avons du pain, nous voulons des lois, la vraie révolution est en marche.
It is a tragedy of our times that 200 years after that heroic struggle and achievement, in my country, South Africa, yet survives that most archaic, brutal, racist ideology of apartheid.
Empêcher l'impunité des criminels nazis jusqu'à l'ultime souffle du dernier criminel, défendre les juifs partout où ils sont persécutés et soutenir fidèlement l'existence de l'État juif.
La France est, par son histoire, la terre des droits de l'homme. Entretenir et défendre les droits fondamentaux, c'est surtout la tâche quotidienne de chacun d'entre nous.
Pas de compromis. Il est bon que vous l'ayez dit à travers votre vie militante. Merci.
On a entendu la litanie des intentions, une sud-africaine, Bert Klarsfeld, la messe est dite et l'envoi prononcé par François Mitterrand. Et François Furet là-dedans ?
Écoutez, François Furet n'a cessé de souligner cette rencontre, disait-il, je crois, malicieuse entre le bicentenaire et l'effondrement du communisme ou les secousses qui ont affecté le communisme à la fin des années 80. Dans la mesure où la Révolution française, qui avait été longtemps le passé de la Révolution communiste, redevenait en quelque sorte l'avenir de la Révolution communiste. Et c'est ce retournement de l'histoire qui l'a beaucoup fasciné et qui, en le pointant, d'ailleurs, je pense, a beaucoup contribué à faire de lui un adversaire d'une gauche toujours nostalgique d'un passé qu'elle n'arrive pas négliger ou à repousser de son horizon.
C'est drôle parce qu'on parlait de Thiers, historien de la Révolution, qui essayait de concilier les contraires et que n'aimait pas Furet, il comparait Mitterrand à Thiers.
Oui, je crois qu'il l'aimait encore moins François Mitterrand qu'Adolphe Thiers. Il a toujours eu des propos très très durs contre François Mitterrand.
Non, ils avaient l'un et l'autre le génie d'ajustement aux circonstances.
On peut le voir comme ça. Il y a d'autres textes qui sont aussi beaucoup plus sévères que celui-là.
À peine fini le bicentenaire, il s'engouffre dans la rédaction d'un livre qui va avoir énormément de succès, Le passé d'une illusion. Et il préparait un Napoléon quand il est mort en 97.
En effet, c'était son grand projet. François Furet avait un talent, vous l'avez signalé en commençant l'émission, une plume extraordinaire. Il avait particulièrement un talent de portraitiste. Toute son œuvre est émaillée de portraits qui sont tout autant de petites biographies. Et son œuvre d'historien, aurait dû être couronnée, en effet, par ce grand Napoléon que, malheureusement, il n'a pu nous donner.
Beaucoup de facettes, et pas seulement celles que nous avons explorées aujourd'hui concernant la Révolution française, dans votre François Furet, Les chemins de la mélancolie. Alors c'est vous qui êtes de tempérament mélancolique et qui avez choisi ce sous-titre pour votre édition chez Stock, mais c'était un joyeux quand même dans sa bande d'amis, sans les connards, François Furet. Merci à vous. Alors la bande d'amis de La Marche de l'Histoire, Frédéric Martin, Stéphane Ronxin, Tiffaine Rault, qui a préparé cette émission, à la technique, Yann Bouillot et Nicolas Jaillot.